Chapitre 18, verset 37, c'est Pilate qui parle à Jésus. Pilate lui dit, « Tu es donc roi ?» Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Voici pourquoi je suis né, et voici pourquoi je suis venu dans le monde, pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Le deuxième passage se trouve dans Timothée, 1 Timothée 6,15. 1 Timothée 6,15. Je vais lire un petit peu plus haut, au verset 13, pour que ça soit une phrase complète de ce passage de Timothée. Je te le recommande devant Dieu qui donne la vie à tous les êtres et devant le Christ Jésus, qui a rendu témoignage par sa belle confession devant Ponce Pilate. Garde le commandement sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vue, ni ne peut voir, à lui honneur et puissance éternelle. Amen. Et un dernier passage dans Apocalypse, chapitre 19, verset 16. Apocalypse 19, verset 16. Vous voyez, c'est ce passage, verset 12, qui nous introduit. Ce personnage qui est assis sur un cheval blanc à la fin des temps, fidèle et véritable, qui combat avec justice avec une flamme de feu. Et au verset 16, il est dit, il a sur son manteau et sur sa cuisse un nom écrit, roi des rois et seigneur des seigneurs. Roi des rois et seigneur des seigneurs. Voilà, ce matin, j'ai orienté la louange autour de ce thème, roi des rois, seigneur des seigneurs. Nous sommes dans un temps de transition dans l'Église, puisque l'année scolaire qui vient, on va réécrire la vision. Et David Alonso m'a poussé à parler de Christ et à la rentrée de l'Église. En fait, les deux choses, bien sûr, sont liées, puisque Christ est le chef de l'Église et que l'Église est l'épouse de Christ. Donc, les sujets que j'aborde en ce moment, c'est l'identité de Christ. Dimanche dernier, on a vu quoi comme identité de Christ? Pardon? L'autorité? Sacrificateur. En fait, dans la Bible, dans l'Ancien Testament déjà, bien sûr dans le Nouveau, dans Hébreu, c'est rappelé qu'il y a en fait trois offices, trois fonctions, si vous voulez, qui sont capitales, qui traduisent en fait l'organisation d'une communauté, l'organisation d'un être vivant, qui sont les trois offices qui ont été établis dans l'Ancien Testament, en vue de ce que Christ va faire. Et ces offices sont quoi? Quels sont ces trois offices? Pardon? Prêtre, roi et sacrificateur. Alors, le mot prêtre, je n'aime pas trop le mot prêtre, parce que l'Église catholique l'a galvaudé, parce que prêtre, ça vient du grec presbytéros, qui veut dire ancien. Donc, ce n'est pas tout à fait sacrificateur. Je préfère le mot sacrificateur parce que son nom parle bien du sacrifice et pas l'ancien, c'est celui qui gouverne, etc. Parce que le sacrificateur, celui qui apporte des sacrifices. Donc sacrificateur, roi et prophète. Ces trois éléments donc qui sont imbriqués pour n'en faire qu'une, hein, c'est la présentation de la Trinité aussi. Hein, la Trinité où nous savons que notre Dieu, le Dieu de la Bible, c'est Yahvé Elohim. Elohim, c'est un pluriel, et Yahvé, c'est un singulier. Donc, Dieu, il est unique, mais il est en trois personnes, Père, Fils et Saint-Esprit. Jésus, lui, enfin, voyons d'abord l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, quand Dieu a établi le culte de l'Ancien Testament, la manière d'apporter l'organisation, je dirais, d'Israël, tournait autour de ces trois offices qui étaient tenus par trois lignées différentes, puisqu'il y a les 12 tribus. Donc la lignée de David et de Judas, hein, de la tribu de Judas, c'est la lignée de la royauté. Je la mettrai plutôt ici, on va en parler aujourd'hui, la royauté, le roi, hein, roi David, qui préfigure la royauté du Christ, puisque Christ est assis sur le trône de David éternellement. Donc la royauté, le roi. Ici la sacrificature, hein, elle est en haut parce que elle est médiatrice avec Dieu. Hein, sans médiateur, sans sacrificateur, on ne peut pas accéder à la divinité. Même dans les cultes païens, c'est par le sacrifice qu'on accède à la divinité, sauf que c'est pas des dieux, c'est des démons. Donc en fait, on sacrifie à des démons. Mais le sacrifice est le lien entre l'humain, le créé et l'incréé, hein, ou l'invisible, je dirais. Donc le sacrificateur, vous savez que dans l'Ancien Testament, c'est le souverain sacrificateur qui représentait le peuple qui rentrait une fois par an, hein, c'est le fameux Yom Kippour, le temps où ce sacrificateur représente le peuple, les péchés du peuple, puisque les péchés individuels étaient apportés par chaque Israélite en fonction de son péché. Mais le peuple en entier était dans le péché et ne pouvait pas accéder à son Dieu. Et c'est le souverain sacrificateur qui avait ce rôle. Donc la sacrificature, elle est là, et elle était tenue par une autre tribu, pas la tribu de Judas, mais la tribu de Lévi. Lévi, par lequel est sorti le fameux Aaron. Mais au temps de David, c'était un autre sacrificateur qui s'appelait Tsadok. Et Tsadok a donné le nom sadducéen qui existait au temps de Jésus. Les sadducéens, les pharisiens, les sadducéens, c'était les gardiens du temple. C'est ceux qui étaient au-dessus des pharisiens, si vous voulez, en termes. C'est l'aristocratie, si vous voulez, juive. Hein, parce qu'il n'y avait plus de roi à l'époque de Jésus. Les rois n'existaient plus à la déportation, mais c'est les sacrificateurs qui tenaient le rôle de chef d'Israël à l'époque. Donc on est dans la royauté, dans la sacrificature et dans le prophétisme, le prophète. Les prophètes, ils n'appartenaient pas à une tribu particulière. Ils venaient de n'importe quelle tribu. Dieu les choisissait en fonction, voilà, de ses propres critères. C'était Samuel, c'était tout un tas de prophètes que vous voyez dans l'Ancien Testament, et Élie. Et ils devaient parler de la part de Dieu. Un prophète, ça veut dire parler de la part de Dieu, donc être les instruments. Et de Dieu, et cette parole, en fait, c'est une parole prophétique, hein, qui était inspirée, bien sûr, par le Saint-Esprit, qui est derrière les prophètes. Vous voyez un peu derrière cette trilogie aussi, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Mais en tout cas, l'action prophétique, c'est l'action de parler de la part de Dieu en vue de quelque chose qui va arriver aussi, d'un avenir, si vous voulez. Or, nous voyons que Christ, dans l'Ancien Testament, il était interdit aux hommes de tenir les trois offices en même temps. Donc il y avait à chaque fois des prophètes, quand il y avait des rois, qui oignaient d'ailleurs les rois, etc. Donc c'était des fonctions séparées. Et Christ, lui, il a investi l'ensemble de ces trois offices. Donc Christ, il est souverain sacrificateur, il est roi des rois, seigneur des seigneurs, hein, le roi, voilà. Et il est, bien sûr, le prophète, puisqu'en plus, l'évangile de Jean l'introduit comme le logos, le verbe. C'est plus qu'un prophète qui parle, c'est le verbe lui-même qui s'exprime. Et donc, c'est le prophète par excellence. D'ailleurs, pour Jésus, il n'y a jamais eu de problème à l'accepter comme prophète. D'ailleurs, l'islam aujourd'hui accepte Jésus comme prophète. Vous voyez. Donc l'aspect prophétique ne pose pas de problème. L'aspect sacrificature et roi, oui, mais pas l'aspect prophétique. Donc il y a ces trois offices, on appelle ça des offices, pour marquer une fonction qui est capitale, si vous voulez. Hein. Il y a d'autres fonctions après, qu'on peut appeler... En France, il y a les offices qui restent encore de la royauté de l'époque monarchique. Mais maintenant, on n'a plus beaucoup d'offices, mais il reste les offices que vous connaissez, notaire, etc. Donc, on a pris dimanche dernier, les dimanches d'avant, l'aspect sacrificature, le Jésus comme sacrificateur. Aujourd'hui, on va voir Jésus comme roi et on verra Jésus comme prophète, comme le Logos. Toutes ces fonctions, tous ces offices, s'inscrivent dans une théologie, on appelle ça une théologie, c'est-à-dire une conception de l'histoire de l'humanité. Et c'est pas forcément évident de bien saisir cette histoire parce qu'elle est complexe. C'est une histoire complexe, elle est paradoxale. Je m'explique. Aujourd'hui, Jésus règne. Ok ? Mais il règne où ? Sur quoi ? Je vous fais réfléchir. Hein. Il règne où et sur quoi ? Est-ce qu'il règne sur tout ? Ben voilà. Vous voyez, donc c'est pas évident. On pense que Jésus, roi des rois, il règne sur tout. Il règne pas sur tout. Pardon ? Tout ce qui lui est soumis, est-ce que tout lui est soumis ? Ben non. Donc, vous voyez, on dit Jésus est roi des rois, mais un roi, normalement, tout lui est soumis, puisque c'est un roi qui est... Donc ça pose question. Alors, vous voyez, je vous parlais en d'autres temps que de la vision dualiste. Dualiste, c'est deux choses. Et pour clarifier les choses, quand on est dans la vision dualiste, on dit qu'il y en a un qui est bon, l'autre qui est mauvais. Donc la vision dualiste, normalement, Jésus, il doit être roi partout, en tout temps, sur tout, etc. Et là, c'est déjà pas vrai. Donc vous voyez, avec un raisonnement dualiste, on ne peut pas s'en sortir. Et on raisonne tous. Hein. Même ceux qui disent qu'ils ne raisonnent pas, heureusement qu'ils raisonnent, sinon ils seraient dans un asile de fous. On raisonne. Hein. Mais il vaut mieux avoir un raisonnement qui soit adapté à la situation. Cette situation est complexe. Elle est complexe. Donc, moi, j'utilise un raisonnement à trois directions, quoi, trois domaines, et qui sont vrais en même temps. C'est-à-dire, Jésus règne, et en même temps, il ne règne pas. Et c'est ça, la réalité. Il règne, il ne règne pas. Donc, en fait, on appelle ça un paradoxe. C'est-à-dire, c'est deux choses contraires qui sont vraies en même temps. Et ça, ça ne peut pas se résoudre par un dualisme. Blanc-noir. C'est ou blanc ou noir. Non. C'est complexe. Et donc, il faut préciser pour bien comprendre. Donc, j'ai précisé ce matin en quoi Jésus règne et en quoi il faut qu'il règne. Alors, ceux qui suivent la théologie de Georges Ladd, et je vous encourage à le faire pour ceux qui ne sont pas encore convaincus, toutes ces choses-là sont expliquées, c'est le royaume de Dieu, le règne de Dieu. Voyez, on parle de Jésus roi, un roi il règne. Donc la notion du règne de Dieu, c'est complexe. Aujourd'hui c'est complexe. Dans l'avenir, dans l'éternité, ce ne sera pas complexe. Effectivement, Jésus règnera sur tout, etc. Quand il aura remis le règne à son père. Aujourd'hui, il n'a pas remis le règne à son père. Son père lui a donné le règne jusqu'à ce que tous ses ennemis soient sous ses pieds. Voyez, donc on est dans un combat spirituel. Aujourd'hui, on est dans un combat. On aimerait, Michel le dit souvent, il aimerait bien que la vie soit un pétale de rose. Ok, mais ça n'est pas le cas. Ça n'est pas le cas. On sera obligé de combattre. Vous êtes obligé de combattre. Est-ce que dans votre vie personnelle, vous n'avez pas besoin de combattre ? Tout va bien, très bien. Dans votre vie de couple, est-ce que tout va très bien ? Dans votre vie de famille, est-ce que tout va très bien ? Dans votre vie de travail, est-ce que tout va bien ? Non. Non, parce qu'il y a les ronces, les épines, même si vous êtes un cultivateur ou autre, vous apercevez. tout ne va pas tout seul, parce que il y a eu le péché. Le péché qui a corrompu cet idéal de vie que Dieu avait créé, qui était le paradis. Et tout le monde veut retourner dans ce paradis. Hein. Sauf qu'il n'y a qu'un seul chemin pour y retourner, c'est Jésus. Voilà. Mais tout le monde veut y retourner. Il y a les francs-maçons qui veulent y retourner, il y a toutes les sociétés philosophiques qui veulent y retourner, chercher le bonheur. Tout le monde veut y retourner. C'est normal, parce qu'on a cet instinct en nous que ce n'est pas normal que ce soit imparfait. Mais la Bible dit qu'il n'y a qu'un seul chemin, c'est Jésus. Voilà. Et Jésus l'a fait au travers de ces trois offices, vous voyez ? Pas que l'office de roi, mais l'office de sacrificateur et l'office de prophète. Donc le roi des rois, le seigneur des seigneurs, aujourd'hui, son règne, son royaume, si vous voulez, le royaume de Dieu, et c'est toute la théologie de l'âme, il montre toute la complexité de ce règne. C'est pas simple du tout. Il faut se coltiner un petit peu les textes bibliques, et c'est ce qu'on fait dans cette étude de la théologie, l'ensemble des textes qui nous permettent de comprendre que nous sommes dans un temps de tension, du déjà, pas encore du royaume. Le royaume est déjà là, et il n'est pas encore là. Il est là, mais sans être là. Et c'est pour ça que quand vous combattez la maladie, quand vous combattez les problèmes, ben c'est pas simple. Parce que, bien sûr, Jésus peut guérir. Et Jésus a guéri, mais il n'est pas guéri tout le monde non plus. Il y a des règles du règne. Et quand on ne connaît pas ces règles, eh bien, on les simplifie au maximum, bien sûr, pour son propre confort, et on explique les choses à sa manière. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Ce n'est pas comme ça que nous sommes dans cette réalité. Donc, je dirais que Jésus règne, il faut qu'il règne, mais il ne règne pas encore partout. Par exemple, il doit régner, on le verra, il doit et il faut qu'il règne sur tous les humains. Mais est-ce qu'aujourd'hui tous les humains acceptent Jésus? Donc, vous voyez, déjà, premier problème. Il faut qu'il règne sur Israël. Est-ce que tous les juifs, tous les israélites acceptent le règne de Jésus?
Non.
Deuxième problème. Il règne sur la création tout entière. Est-ce qu'aujourd'hui la création tout entière est sous le règne de Christ? C'est le règne de Satan, hein, le prince de ce monde. Il faut qu'il règne comme prince de paix. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a la paix? Non, il y a la guerre. Il faut qu'il règne comme roi de justice. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a la justice? Non plus. Oui. Il faut qu'il apporte le bonheur. Est-ce que tout le monde a le bonheur aujourd'hui? Hein, si Jésus est roi, il apporte le bonheur, normalement, c'est efficace, son règne de bonheur. Ben non, de bonheur. Vous voyez, donc, encore problème. Il faut qu'il règne comme monarque absolu. Est-ce que les monarques absolus, aujourd'hui, c'est le pied? Parce que Louis XIV, c'était le pied. Il était monarque absolu. Hein. Il avait écarté tout ce qui n'était pas de son droit de régner, il l'a écarté. Vous voyez, la catastrophe, c'est qu'après, les Français, ils ont coupé la tête des rois tellement ils en avaient marre de ce monarque absolu. Or, Jésus sera un monarque absolu. Mais aujourd'hui, il n'est pas monarque absolu. Les lois sont votées dans les nations, la justice elle est exercée, législatif, etc. Vous voyez ? Donc, on aspire à ce monarque absolu qu'il sera dans la perfection par la suite. Il doit régner pour sa joie. Le ciel est rempli de joie. C.S. Lewis s'est converti par la joie. Il a dit, le ciel est rempli de briques de joie, est construit de briques de joie. Et il faut qu'il règne pour l'éternité. Et il faut qu'il règne dans nos cœurs. Est-ce que dans nos cœurs, il règne? Est-ce que dans le cœur des chrétiens, il règne? Oui, non? Oui? Ah, vous voyez? C'est complexe la réponse. J'ai pas un oui, non, franc, vous voyez ? Non, c'est complexe. Alors, c'est où la complexité ? C'est où la complexité ? Pardon ? Combat de la chair et l'esprit. Alors, c'est quoi la problématique aujourd'hui de ce règne de Christ dans les cœurs qui n'est pas. Tu peux baisser un peu parce que là, ça fait écho. C'est quoi la problématique? Comment vous poseriez le problème, vous? Oui, c'est le péché. Alors, je vais vous mettre sur la piste. Est-ce que les églises sont parfaites? Ah, j'ai déjà une réponse franche. Ça veut dire quoi, alors, au niveau des églises? La problématique des églises, c'est quoi? Et il faut toucher les réalités concrètes, hein, sinon on plane sur des nuages. Oui, ça c'est le souhait. Mais quelle est la réalité? J'aime bien la réalité, parce qu'on vit dans une réalité. Hein. Est-ce que toutes les églises sont parfaites? Bon, ça veut dire quoi? Oui, mais la réalité. Oui, mais la réalité des églises. Est-ce qu'il y a plusieurs types d'églises? Je sais que vous venez d'une église charisma. Bon, je ne veux pas déflorer les origines de vos églises, mais je veux dire, vous voyez bien différentes églises. Bon, ok. Alors, vous savez, dans le monde protestant, on s'est éloigné du monde catholique, dans la réforme, à juste titre, hein, quand vous voyez les indulgences, quand vous voyez toute la déviance qu'il y a eu au niveau de l'argent, voilà. Luther, il était choqué. Calvin était choqué. À l'époque, c'était l'horreur. Hein. Et la réforme a cherché à rétablir un certain nombre de doctrines, la justification par la foi, et non pas par les œuvres, etc. Alors, vous voyez, il y a déjà eu un tri dans les églises. Et ça, depuis l'origine des églises, depuis la création des églises. Alors, il y a deux grandes catégories. On peut catégoriser les églises. Il y a les églises de multitude. Ça vous dit quelque chose, multitude? Et les églises de confessants. L'église évangélique, qui en 1848 s'est créée, puisque la réforme a créé le protestantisme. Vous connaissez un peu notre histoire. À l'époque de la réforme, il y a eu l'église luthérienne, l'église calviniste, l'église ménonite avec les Ménos, etc. Et il y a eu donc le 17e, 18e, 19e siècle. Qu'est-ce qui s'est passé dans ces églises protestantes? Est-ce que c'était mieux que dans l'église catholique? Non, c'était pire. C'était pire. Au 19e siècle, relisez l'histoire, hein, parce que celui qui ne connaît pas l'histoire, en fait, il l'a reconduit. Il fait la même chose en pire. Donc c'est bien de connaître l'histoire, parce que c'est des humains. En 19e siècle, avec l'arrivée de la science, de la raison, etc., les protestants, ils sont arrivés à dire que la résurrection de Christ n'a pas existé. Relisez les livres, j'invente rien. Au point que ça a poussé l'Église catholique à faire le Concile Vatican I, puisque Vatican II, c'est 1960, hein. Vatican I, c'est 1800 et quelques, l'Église catholique a dû faire un concile pour dire, attendez, là, trop, c'est trop. C'est l'Église catholique qui était fidèle alors que l'Église protestante, vous voyez, est devenue hérétique. Et là, je ne fais pas un scoop, regardez, même sur Wikipédia, enfin, informez-vous. C'est des choses qui font partie de notre culture. L'Église réformée, l'Église en général protestante, est allée beaucoup plus loin parce qu'ils ont dit, mais la Bible, voilà, c'est des mythes. Voilà, il ne faut pas la prendre comme ça. Voilà, Jésus n'est pas vraiment ressuscité. C'était pour encourager les chrétiens, voilà, et, etc., etc. Allô? Et à l'époque, il existait des évangéliques, des gens qui étaient sur l'évangile. Ils ont dit c'est pas possible. Et ils ont créé le mouvement évangélique, 1848. C'est à Londres qu'ils se sont réunis, les premiers évangéliques qui ont créé le mouvement évangélique. Et aujourd'hui, l'Alliance évangélique, où tous les gens, mois de janvier, on vous convoque pour prier ensemble avec les frères et sœurs, ça remonte à 1848. Vous voyez, donc voilà, il ne faut pas découvrir l'eau chaude, il faut la connaître un petit peu, notre histoire, pour apprécier ce que nos aînés ont fait, qui nous ont légué voilà, quelque chose qui. Voilà, il faut faire attention parce que nous, on risque de tomber dedans. Et. En fait, il y a toujours. Et ils ont créé les églises de confessants, c'est-à-dire ceux qui confessent Jésus. Pas ceux qui viennent à l'église pour chauffer une chaise, pour être bien, pour avoir un ticket pour le ciel, etc. Vous voyez, toutes ces églises qui sont soit nationales, soit très très grandes, où finalement, voilà, on vient à l'église parce que on veut être sauvé, quoi. Tout le monde veut être sauvé. Mais les églises de multitude ne demandent pas à des gens de changer de vie. Jean-Paul Englert, pour ceux qui le connaissent, qui est américain, qui est plus américain que français, il dit que les grandes églises évangéliques là-bas, les pasteurs disent c'est bien, mais vous pouvez repartir comme vous êtes venu, on ne va pas vous embêter avec la repentance, tout ça. Non, c'est bien, vous êtes très bien comme ça. Comme vous êtes, c'est bien, Dieu vous aime, etc. C'est une église de multitude. Donc vous pouvez classer, y compris les églises évangéliques, dans les multitudes, quand il n'y a plus l'exigence de la parole. Oui, vous enlevez l'exigence de la parole. Ce qui gêne tout le monde, c'est la repentance. Pourquoi se repentir? J'ai fait du mal à quelqu'un, il faut que je me repente. Petit à petit, ce genre de choses, ça gêne, ça agace tout le monde, quoi. Voilà. Et les églises deviennent des églises de multitude. Il y a un glissement, si vous voulez, tout naturel, et qui se fait chacune dans notre vie. Nous, il faut qu'on se ressaisisse aussi. Parce qu'on a tous tendance à ça. Si vous voulez, c'est une tendance de la chair, tout à l'heure. Noéla a parlé de la chair, oui, c'est ça. Mais je veux dire, on n'est pas à l'abri. C'est ça que je veux dire. Je ne suis pas en train de critiquer les églises de multitude. Je dis que c'est sociologiquement quelque chose qui est lié à l'être humain et qui intéresse tout le monde, y compris la nôtre. C'est pour ça qu'aussi, je suis content qu'on va réécrire la vision. Parce que nous, il y a 30 ans, quand on a commencé l'église ici au Bergenville, il y avait un certain feu qui a disparu, en tout cas pour les nouvelles recrues, parce que on ne peut pas vivre sur un acquis. On ne peut pas vivre sur un acquis. Il faut que chaque génération, d'ailleurs dans l'Ancien Testament, Dieu laisse les ennemis justement pour que les générations apprennent le combat spirituel et le combat en général. Eh bien, aujourd'hui, il faut se battre. Il faut se battre pour que l'église de Bergenville ne devienne pas une église de multitude. Vous voyez, je prêche pour ma paroisse, là. Je tombe sur personne. Donc, vous voyez, pour revenir à ma question de départ, il faut bien voir qu'il y a plusieurs types d'églises. Et les églises qui sombrent dans un certain marasme et de complaisance vis-à-vis de soi-même, eh bien, on devient une église de multitude. Donc, aujourd'hui, il faut que Jésus règne dans nos cœurs pour qu'il soit confessant, pour que nous puissions confesser Jésus-Christ, pour que partout où nous sommes, nous soyons prophétiques. On verra ça dans un prochain prêche, que le chrétien doit être un chrétien prophétique, que la communauté doit être prophétique. Si elle n'est plus prophétique, eh bien, ça devient une église de multitude, où les gens viennent parce qu'ils sont sauvés, parce qu'ils sont contents, parce que Jésus, voilà, etc. Et c'est pas lié ni au catéchisme, ni au protestantisme, ni à l'évangile, c'est lié à la nature humaine. Est-ce que j'étais clair là-dessus? Revenons sur ce que ces différents éléments dont j'ai parlé, il faut qu'ils règnent sur les humains. On verra la suite dans les dimanches qui suivent. Jésus est mort, il est ressuscité, il est monté au ciel à la vue de ses disciples, c'est un fait. Et dans l'éternité, il va garder ce corps glorifié qu'il a eu à la résurrection. Et la Bible dit que nous aurons ce corps glorifié aussi lorsque notre corps disparaîtra et qu'il sera remplacé par le corps glorifié que nous recevrons à la place. Il y a beaucoup de passages, tant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament, qui montrent que Jésus ne restera pas toujours dans ce lieu de gloire actuel, mais qu'il viendra sur la terre. Donc, vous voyez, dans l'histoire, il y a aussi une progression dans laquelle nous sommes concernés, où Dieu a créé la terre pour les humains. Nous ne sommes pas des purs esprits. Les anges qui sont des créatures aussi, puisqu'il n'y a pas que les hommes qui sont des créatures, il y a aussi les anges. Ces anges sont là pour servir Dieu. Et aujourd'hui, ils sont ce qu'on appelle dans le troisième ciel. Paul l'exprime quand il est allé dans ce troisième ciel pour rencontrer Dieu devant son trône. Mais il y en a qui, eux aussi, ont choisi de désobéir, comme les hommes ont choisi de désobéir. Et eux, ils sont dans le deuxième ciel et le premier ciel. Vous voyez, il y a trois ciels, en gros. Et donc c'est les démons au premier ciel et les puissances, les autorités au deuxième ciel. Donc tout ça, c'est lié à la vision du combat spirituel. Et il faut connaître ces choses-là pour ne pas se faire piéger, parce qu'il y a beaucoup de pièges dans le combat spirituel. On ne peut pas faire du combat spirituel n'importe comment. Si on le fait, c'est à nos dépens. Donc il faut connaître ces règles-là et connaître l'enseignement de l'Écriture. Mais la terre a été faite pour les hommes. Et normalement, les hommes, ou le premier homme qui a initié la chute, n'aurait jamais dû donner le droit de régner à Satan. Satan, il a joué d'astuce pour obtenir le droit de pouvoir agir, être le prince de ce monde sur la terre. Mais un jour, Satan sera lié définitivement. C'est le sens de l'histoire, de l'espérance que nous avons, que Dieu a promis. Donc, vous voyez, nous sommes là aussi dans un cycle, dans une progression. Et aujourd'hui, Jésus, vous savez, il ne règne pas sur la terre. Alors ? Non ? Il y en a qui croient à l'inverse ? Qu'est-ce qui règne sur la terre ? Ah, c'est le prince de ce monde, Satan, c'est Jésus qui l'a dit. Donc il y a un problème. Il y a un problème pour nous que nous devons combattre pour que notre droit, clarté, droit, autorité, que notre autorité, déjà personnelle, soit manifestée parce que Jésus... Alors, comment est-ce qu'on obtient ce droit ? C'est en obéissant à Jésus. Il a dit, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. C'est les lois de Jésus. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne se rendent pas compte que, voilà, ils transgressent les lois, une loi de Dieu, et il ne se passe rien. Alors, une fois, deux fois, il ne se passe rien. Ils pensent qu'il ne se passe rien. Si, il se passe quelque chose. Sauf que Dieu, il n'agit pas tout de suite, hein. Mais il se passe quelque chose déjà, parce que quand, en ayant péché, on le voit dans le mystère de la maison des livres, vous avez les conséquences de votre péché, mais en plus après ça peut aller plus loin si on continue. Il y a la démonisation qui vient, hein. Il y a même la possession qui peut venir après. Vous voyez, c'est, toutes ces notions de combat spirituel, c'est très important de le comprendre. Donc ce qu'il faut, c'est se repentir à chaque fois que vous savez que vous avez péché. C'est une hygiène de vie. Et ça, c'est comme ça que Jésus peut régner. Il ne règne pas sur le péché. Jésus règne sur un corps saint, sur une pensée saine, sur un chrétien qui agit conformément à la parole. Il a dit, si vous obéissez à mes commandements, vous m'aimez. Vous voyez ? Et c'est donc, le commandement est important, non pas pour notre salut, nous sommes sauvés par la foi, mais notre vie chrétienne et le règne de Christ dans nos vies est mesuré par notre obéissance à la parole, notre obéissance à la loi de Dieu, notre obéissance au commandement de Dieu. Vous voyez ? Donc vous voyez, ça change un peu la perspective. Hein. Ouais, sauver, toujours sauver, voilà, on peut faire n'importe quoi, non. Vous savez, dans la pensée catholique, qui disent que si vous prenez l'Eucharistie, tous vos péchés sont pardonnés, etc. Il y en a qui péchaient plusieurs fois exprès pour rendre efficace l'Eucharistie. Trois fois par jour, ils prenaient l'Eucharistie, etc. Mais on peut jouer avec ces choses-là, vous voyez, on peut aller jusque-là. Mais avec Dieu, on ne joue pas, parce qu'il y a l'ennemi qui est une réalité vivante. Vous voyez ? Donc, on ne peut pas jouer avec le péché, parce que Satan est plus malin que nous. Satan est plus intelligent que nous. Il possède des clés que nous n'avons pas. Donc ce que nous devons, c'est obéir à Dieu, obéir à sa parole et ne pas discuter. Vous voyez ? Les chrétiens qui discutent, ben, ils se font piéger. Parce qu'ils en ont un qui est plus discute ailleurs qu'eux. Donc, reprenons. Aujourd'hui, Jésus ne règne pas sur la terre. Il est invisible. Il règne dans le ciel. Alors ? Il règne dans le ciel. Et il est dit que nous sommes assis dans les lieux célestes avec lui. C'est là que nous régnons. Mais nous régnons uniquement dans cette partie-là. Dans la partie sacrificature, vous voyez ? Dans la sacrificature. Il y a des problèmes là ? Oui. Ben, ce matin, parce que nous sommes dans l'église. Oui, parce que nous sommes dans l'église.
On ne peut pas dire que Satan règne sur la terre. Moi, pour moi, Jésus règne.
Il a vaincu
la mort, les autorités et tout ça.
Non, mais on a déjà eu ce débat-là ensemble. Mais ça, c'est pas opérationnel. C'est pas opérationnel. L'opérationnalité, c'est d'être dans la réalité. La réalité, c'est que... Non. Non, mais attends, on va pas faire de débat ici. Moi, c'est la parole. C'est la parole. La parole dit que Satan règne. Satan règne. Jésus l'a dit. Il a dit, c'est le prince de ce monde. Dans ce monde, nous sommes dans ce monde. Nous sommes assis dans les lieux célestes. Okay, nous sommes assis dans les lieux célestes. Donc en tant que sacrificateurs, c'est pour ça que nous sommes appelés à être sacrificateurs dans les cultes. Mais quand nous sommes dans l'église associative, et c'est ça qu'on va parler dans la vision, associative, frères et sœurs, ben vous avez tout plein de péchés. Ce serait formidable que les chrétiens ne pêchent pas. Donc il ne règne pas Jésus là-dedans. Vous avez des problèmes dans les structures chrétiennes partout. Donc on ne peut pas dire que Jésus règne. C'est une erreur complète. Non. Dans l'église, entre frères et sœurs, il y a du péché. Et d'ailleurs, Ananias et Saphira, ils en ont fait les frais. Hein. Voyez-vous ? Il faut être réaliste. Il ne faut pas être idéaliste. Là, c'est de l'idéalisme. Le réalisme, c'est que il y a notre esprit, qui est en esprit avec Jésus, qui est sauvé. Ça, c'est une partie de nous. Parce que nous sommes trois aussi. Corps, âme et esprit. Notre corps, vous savez très bien qu'il est voué à la destruction. Jésus ne règne pas sur la destruction. Jésus, il va nous donner un nouveau corps. Et là, il va régner. Notre âme, elle est pleine de défauts. Nos pensées, notre intelligence, notre mémoire, etc., c'est plein de défauts. Jésus ne règne pas là-dessus. Voyez ? Donc, il faut voir les choses telles que la Bible nous le décrit. Corps, âme et esprit. Nous sommes sauvés en esprit, et d'ailleurs le ministère de la Maison d'Élie, le TQP et tout ça, on a assez d'exemples qui nous enseignent cela. Il faut marcher par l'esprit et non par la chair. La chair, elle est sujette au règne de Satan, je suis désolé, même en tant que chrétien. Sinon, les églises ne seraient pas les églises telles qu'on les voit, tous les défauts aujourd'hui. Voyez ? Ouais.
Qui montre que lui, le royaume de Dieu est là. Mais en même temps, comme tu disais tout à l'heure,
déjà.
Le royaume est avec nous.
Oui, déjà pas encore. Ouais. Ouais. Non, mais ceux qui suivent là, ils le comprennent très bien, parce qu'ils l'expliquent parfaitement. Oui, déjà pas encore. Non, attends, c'est pas de la magie. On n'est pas dans la magie, attendez. Là, on fait de la magie chrétienne. C'est pas parce qu'il règne que le règne est effectif. Oui, les reines.
Mais tout le monde ne la reconnaît pas forcément.
Ouais.
Tout le monde ne lui est pas forcément soumis, mais elle règne. Et on peut dire qu'elle règne.
Oui.
Ouais, et moi, ce qui me gêne, c'est quand on dit, c'est comme si on disait, Satan règne, et qu'on est en train de l'élever en disant, il est roi.
Non, mais ce que vous confondez, oui, mais ça vous gêne parce que vous n'êtes. Il faudrait suivre la théologie de l'âne pour bien comprendre, parce qu'il explique beaucoup mieux que moi. C'est qu'il y a une question de temps. Le temps. C'est le temps. C'est le temps. Non, mais il y a le temps. Non, mais attends, on n'est pas dans des débats philosophiques ou spéculatifs. On ne fait pas de la spéculation. Non, on est dans la spéculation, là. Le temps aujourd'hui, je parle aujourd'hui, Jésus ne règne pas tel qu'il régnera dans l'avenir. Je peux parler ? Parce que s'il y a deux débats dans la salle, ça ne va plus. Non, on ne va pas faire de débat. On va terminer parce que le temps est accompli. Mais il faut savoir que nous sommes dans le temps. Jésus est hors du temps. Dieu est hors du temps. Et dans le temps qui nous est imparti, Jésus, il n'aurait pas été crucifié s'il n'y avait pas eu le péché. Aujourd'hui, le péché, il demeure. Et Jésus ne règne pas sur le péché. Je suis désolé. Et notre chair est sous le péché. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus ? On ne fait pas de la spéculation. Hein. La spéculation, ce n'est pas dans une église qu'on l'a fait. La théologie, c'est expliquer ce que la Bible dit. Et, oui, mais Dieu règne, mais il ne règne pas sur le péché. Or, aujourd'hui, il y a le péché. Donc, il ne peut pas régner sur le péché. Il règne sur notre esprit parce que notre esprit a été sauvé par grâce. Et le salut, c'est justement les découvertes des réformateurs. Par rapport, on n'est pas sauvé par nos œuvres. Parce que justement, sauvé par nos œuvres, ça voudrait dire qu'on mélange la sainteté de Dieu à, au péché de, voilà, nos œuvres ne peuvent pas nous sauver. Nous sommes sauvés en esprit. Et c'est pour ça qu'il n'y a que la vision de ces trois éléments qui peuvent nous aider à bien comprendre la complexité de ce règne. Le règne de Jésus, il est dans notre esprit, et si nous marchons par l'esprit, nous pouvons vaincre toutes les difficultés de notre chair, et d'où le TQP. Bien sûr, il n'y a pas de ce monde, c'est sûr, c'est sûr. Il faut prendre toute la Bible. Il ne faut pas prendre un verset hors de son contexte. Il faut prendre toute la Bible. Donc, il faut revenir aux fondamentaux. Et si je vous invite à lire Ladd, hein, en particulier les Schmitt. Hein, si vous lisez Ladd, vous comprenez. C'est le meilleur livre qui existe. Ben, il faut le lire. Je peux vous donner les références sur cette lecture-là. Et si vous prenez l'ensemble des versets, vous comprenez mieux que ce n'est pas une espérance de règne. C'est un règne qui, dans le temps, va se manifester, ou à la fin de cette histoire de la rédemption, de la rédemption, Jésus va régner, mais aujourd'hui il ne règne pas sur tous les humains, il ne règne pas sur tous nos cœurs, parce que nos cœurs, il y a du péché dans notre cœur, il y a même notre corps qui n'est pas parfait. Donc il doit régner, mais il ne règne pas aujourd'hui pleinement. Voilà, c'est tout, c'est le déjà, pas encore du royaume. Pas pleinement, mais en partie. Et c'est ça que les Juifs ne comprenaient pas à l'époque non plus. Et ça que les chrétiens ne comprennent pas. C'est pour ça que les églises vont mal. Parce qu'ils ne comprennent pas ça. Ils pensent que, voilà, Jésus règne, et puis voilà, on peut se permettre n'importe quoi. Non. Nous, on a vu ça. Je ne vais pas donner d'exemple. Mais c'est l'horreur. Les gens, les chrétiens qui sont dans l'erreur, qui disent Jésus règne, et en fait, ils font n'importe quoi. Non. Non, mais moi, j'ai vu ça. On a vu ça parce que on n'est pas sur les bonnes théologies. Donc, on va continuer la semaine prochaine sur ce qu'il doit régner. Il doit régner sur le peuple d'Israël. Il faut qu'il règne sur la création. Mais il ne règne pas. Il faut qu'il règne comme prince de paix, comme roi de justice, pour apporter le bonheur. Il doit régner comme monarque absolu pour sa joie, etc. On verra comment il doit régner et quels sont, comment la Bible montre à quel moment il va régner. Et quand il reviendra, quand nous on viendra avec lui, eh bien le règne sera établi. Il donnera son règne au Père, en final. Il y a toute une explication sur le déroulé de ce règne, qui est un règne, voilà, qui a priori, on peut simplifier, mais qui est beaucoup plus complexe, parce que c'est la sagesse de Dieu. Et il faut laisser Dieu, dans sa sagesse, nous révéler cela. Seigneur, nous te prions pour que nous puissions progresser dans cette compréhension de ton règne. Seigneur, le règne que tu manifeste, Seigneur, est un règne qui s'inscrit dans l'histoire. Et Seigneur, nous te prions que tu nous éclaires chacun sur cette histoire, qui est l'histoire du salut, l'histoire de la rédemption. L'histoire, Seigneur, nous pouvons te laisser toute la place et d'abord régner dans nos cœurs. C'est déjà tout un problème. Seigneur, combien de fois nous te laissons pas régner. Et nous te demandons pardon pour cela. Pardon, Seigneur, pour tout les problèmes et les conflits dans l'Église à cause de ça, parce que tu ne règnes pas vraiment. Seigneur, nous te laissons pas régner. C'est nous le problème, c'est pas toi, bien sûr. Et Seigneur, nous te prions que ta grâce puisse se révéler aussi au travers de ce repas que nous prenons, qui est un repas de grâce, où tu manifestes ta grâce, parce que nous faisons partie de ta maison. Et Seigneur, tu as dit que ce repas, eh bien, il se ferait jusqu'à ce que tu reviennes. Seigneur, où tu manifesteras ton règne parfaitement. Seigneur, nous voulons prendre ce repas dans cet esprit pour que toute la gloire te revienne. Nous te le demandons, Père, au nom de Jésus.